L'heure du journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette décision du gouvernement israélien d'enlever les portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Décision prise cette nuit après une mobilisation diplomatique multilatérale. Nous ferons le point avec Étienne Monin.
Aux États-Unis, Jared Kushner a tenté de se justifier hier pendant plus de deux heures devant les sénateurs républicains. Non, il n'y a pas eu collusion entre l'équipe de campagne de son beau-père, Donald Trump, et la Russie, a-t-il répété. C'est ce que nous dira Philippe Randou.
C'est l'un des objectifs diplomatiques du quinquennat. Emmanuel Macron souhaite le retour de la stabilité politique en Libye. Il invite pour cela en France aujourd'hui les deux chefs rivaux, Sarraj et Haftar, l'un reconnu par l'ONU, l'autre non.
En France, le sujet de la réserve parlementaire, ces dizaines de milliers d'euros donnés aux députés pendant leur mandat, provoque des remous à l'Assemblée. C'est ce que nous dira David Ravier.
Et puis un an après le meurtre du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray par un terroriste qui était sous bracelet électronique, la justice est devenue beaucoup plus méfiante, nous dira Charlotte Piret. Cela mettra-t-il fin à la crise? Les autorités israéliennes, en tout cas, ont fait le choix d'enlever les portiques de la colère, ceux qu'elle avait installés voici quelques jours aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des portiques de détection qui seront remplacées par un dispositif de surveillance plus discret. Ils avaient été installés, ces portiques, après la mort de deux policiers tués le 14 juillet dernier sur le site par des Arabes israéliens. Une décision prise après une discussion téléphonique entre Benjamin Netanyahou et le roi Abdallah II de Jordanie. Les précisions sur place de notre correspondant Étienne Monin.
Et symbole de l'urgence à sortir de la crise, le démontage des portiques a commencé. Cette nuit, des Palestiniens à proximité ont laissé éclater leur joie. C'est une victoire pour leur camp qui s'était fortement mobilisé en organisant des prières de rue en signe de boycott. Le cabinet de sécurité fait marche arrière. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre dit qu'il suit les recommandations des services de sécurité. Les détecteurs de métaux seront remplacés par un système technologique avancé dont on ne connaît pas le détail. Les effectifs de police seront renforcés en attendant ce nouveau plan de sécurité qui pourrait s'appuyer sur des caméras. Cette décision arrive après une discussion hier entre le Premier ministre israélien et le roi de Jordanie. Hier, Israël a cumulé les crises en plus des violences liées à l'esplanade des mosquées. Benjamin Netanyahou a dû traiter une crise diplomatique avec la Jordanie qu'il a vraisemblablement dénouée avec ce recul souhaité par la communauté internationale qui s'était fortement mobilisée.
Étienne Monin, les deux principaux acteurs de la crise libyenne se retrouve aujourd'hui près de Paris. Le Premier ministre Fayez Sarraj et le chef militaire Khalifa Haftar discuteront autour d'une même table cet après-midi, exactement à la Salle Saint-Cloud, à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Sarraj dirige le fragile gouvernement d'Union nationale, soutenu par les Occidentaux. Le général Haftar, lui, contrôle l'Est du pays et ne reconnaît pas la légitimité du Premier. Emmanuel Macron pourra-t-il réconcilier les deux hommes? En tout cas, le président français a fait de la Libye l'une des priorités de sa diplomatie. Or, la situation sur place est très complexe. Nabila Hamel.
Des milices tribales ou régionales qui peuvent changer d'allégeance selon l'intérêt du moment ou au gré des parrainages étrangers. Une menace djihadiste à ne pas négliger, même si le groupe État islamique a pu être délogé de Sirte et de la région de Benghazi. Deux entités qui n'arrivent pas à s'entendre. Bref, un pays éclaté où le vide sécuritaire et politique a profité aux djihadistes et aux trafics humains, où l'économie s'est effondrée. Il y a aujourd'hui un État failli sur les rives de la Méditerranée, déclarait Emmanuel Macron lors d'une récente interview à Ouest-France. Il avait alors évoqué des initiatives concrètes de la France pour tenter de reconstruire la stabilité en Libye. Aujourd'hui, il reçoit les deux principaux acteurs politiques libyens à la Salle Saint-Cloud. L'un, Fayez Sarraj, représente un gouvernement reconnu par l'ONU et installé à Tripoli, mais dont l'autorité est limitée territorialement. L'autre, le maréchal Haftar, soutenu par l'Égypte et les Émirats arabes unis, est l'homme fort de l'Est libyen. C'est un homme hostile aux milices islamistes qui a engrangé ces derniers mois des victoires militaires. Il est depuis considéré par plusieurs pays occidentaux comme un rempart contre la menace djihadiste. Les deux hommes se sont parlé début mai aux Émirats arabes unis ont promis de travailler à l'apaisement des tensions dans le pays. Puis, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayaz Sarraj, a proposé la semaine dernière des élections présidentielles et législatives en mars 2018. Des petits signes peut-être. Le souhait de l'Élysée est que les deux protagonistes se mettent d'accord sur une déclaration conjointe, réitérant notamment qu'il n'y a pas de solution militaire en Libye.
Nabila Hamel, aux États-Unis, c'est à présent au tour du gendre de tenter de prouver qu'il n'y a pas eu collusion avec Moscou pendant la campagne pour les présidentielles de son beau-père, Donald Trump. Hier, Jared Kushner, son gendre donc, mais aussi son plus proche conseiller, a été entendu à huis clos par des sénateurs, une procédure rare, d'autant que Jared Kushner ne fait presque pas d'apparition publique. À Washington, les précisions de Philippe Randé.
Rarement l'expression « le gendre idéal » n'aura été aussi appropriée. La mise en scène est soignée, un pupitre très officiel devant la Maison-Blanche. Les mots sont choisis avec minutie, 2 minutes et 28 secondes pendant lesquelles Jared Kushner a plaidé non coupable. Je n'ai pas commis de collusion avec la Russie et je ne connais personne dans l'équipe de campagne qui l'ait fait. Je n'ai eu aucun contact inapproprié et dans le secteur privé, je ne dépendais pas de fonds russes pour financer mes affaires. Jared Kushner qui a confirmé qu'il avait bien rencontré l'ambassadeur russe aux États-Unis à deux reprises. Confirmation également qu'il a participé à la réunion entre Donald Trump Jr. et l'avocate russe en juin 2016 à New York. Des réunions qui, selon lui, s'inscrivent au milieu de centaines de contacts avec des responsables de plus de 20 pays avant et après l'élection présidentielle américaine. Le conseiller très spécial, dont la prise de parole en public est rare, a conclu son discours par un clin d'œil politique à son beau-père. « Je suis fier de travailler avec l'administration Trump, fier de protéger le pays et de créer des emplois pour les Américains. »
Et puis les sénateurs américains doivent se prononcer aujourd'hui également pour relancer leur promesse d'abroger l'Obamacare après de nombreux reports. Il s'agit d'ouvrir formellement les débats sur l'abrogation de cette loi, mais un vote négatif, probable, marquerait la fin quasi définitive de ce qui était pourtant une promesse de campagne de Trump. L'opposition à Nicolas Maduro se mobilise aujourd'hui dans les rues de Caracas et ailleurs dans le pays. Le président vénézuélien a organisé l'élection dimanche prochain d'une assemblée constituante qui lui attribuerait plus de pouvoir pour plus longtemps, ce que refuse une grande partie de la population et son opposition. Un appel à la grève est lancé pour les deux prochains jours avant un grand défilé vendredi. Depuis le début de cette vague de manifestations, 103 personnes ont été tuées au Venezuela, des milliers de blessés et des centaines d'arrestations ont eu lieu. En Chine, à l'approche du congrès du Parti communiste, les têtes tombent et notamment les plus dangereuses pour le président chinois Xi Jinping. On a appris hier par exemple le renvoi de ses fonctions de l'étoile montante du parti, pressenti d'ailleurs comme le prochain président, Sun Zhengzai. Comme souvent lorsqu'un officiel tombe, c'est pour une accusation officielle de corruption, alors que bientôt les plus hauts dirigeants du bureau politique du Parti communiste chinois vont être remplacés. Les précisions à Pékin de Raphaël Quinlis.
Aucune explication n'a encore été donnée de la part du gouvernement chinois. Accusé de violation de la discipline du parti, Sun Zhengzai, 58 ans, est actuellement interrogé par l'organe anticorruption du pays. À la tête d'une province du centre de la Chine jusqu'à la semaine dernière et sa démission sans autre cérémonie, l'homme politique avait été nommé favori pour succéder à Xi Jinping lors du précédent congrès du Parti communiste. Mais c'était compté sans les velléités du président chinois qui joue avec ses propres règles. À l'approche du congrès du Parti communiste cet automne, 11 des 25 membres du bureau politique du parti seront remplacés. Alors, plus encore que de se débarrasser de potentiels rivaux, le président cherche à s'entourer d'alliés fidèles. La chute de Sun Zhengzai ouvre la voie à un protégé de Xi Jinping, Chen Min'er, qui prend la place de l'ancien favori. Une manœuvre politique qui montre encore l'étendue de l'influence de Xi Jinping. Personne en Chine n'a eu autant de pouvoir depuis Mao Zedong.
Les parlementaires français ne sont pas encore en vacances et pour cause, ils examinent en ce moment deux textes de loi dont les effets devraient se faire sentir sur leurs conditions de travail.
Les textes, en effet, sur la moralisation de la vie publique, sérieusement retouchés par les sénateurs, avant de revenir donc à l'Assemblée hier et jusqu'à jeudi. Parmi toutes les mesures, la réserve parlementaire, la semaine dernière en commission des lois, elle avait été supprimée. On rappelle qu'il s'agit d'une enveloppe de 130 000 euros par an et par député, coquette somme laissée à la discrétion des élus. Si dans la majorité, les députés approuvent cette suppression, les partis d'opposition la jugent à la limite de l'hypocrisie. Le reportage à l'Assemblée de David Ravier.
Pour le gouvernement, la suppression de la réserve parlementaire fait partie des avancées à mettre en place pour créer plus de transparence. Pour la garde des Sceaux Nicole Belloubet, il n'est pas question de garder une habitude qui transgresse la Constitution.
La Constitution ne prévoit pas que les parlementaires puissent disposer d'une dotation budgétaire. Et d'ailleurs, l'article 40 traduit une idée assez proche en interdisant les initiatives parlementaires qui soient génératrices de dépenses pour les deniers publics.
Mais l'opposition juge la mesure populiste et inégale puisque la réserve ministérielle qui fonctionne sur le même modèle, elle, n'est pas mise en cause. Jean-Luc Mélenchon déplore que la suppression de la réserve parlementaire condamne tous les députés alors qu'ils sont une minorité à être fautifs.
Cette loi est un acte de facilité qui prétend que le problème de la confiance du public, c'est-à-dire du peuple, dépendrait des mauvais comportements des parlementaires. Eh bien, je n'hésite pas à vous dire, c'est une honte que de le prétendre ou de le sous-entendre. C'est une honte qui participe à un populisme anti-parlementaire grossier et vulgaire. Si vous voulez poursuivre les corrompus, traquez les corrupteurs. Ils ne sont pas si difficiles à trouver, car ils sont peu nombreux et ne se cachent même pas de leurs activités.
Les motions de rejet déposées par l'opposition dans la foulée n'ont pas été acceptées. La réserve parlementaire est donc bel et bien enterrée. Mais sa suppression ne sera effective qu'en 2024.
David Ravier, c'était il y a un an, le 26 juillet 2015, deux jeunes hommes pénétraient dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray pour y égorger le père Jacques Hamel. Très vite, les enquêteurs identifiaient Abdelmalik Petitjean et Adèle Kermiche, déjà connus de la justice, pour avoir notamment tenté à deux reprises de se rendre en Syrie. Il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire, un contrôle judiciaire strict qui ne l'autorisait à quitter le domicile familial qu'entre 8h30 et midi 30 les jours de semaine, ce qui n'a donc rien empêché. Depuis cette attaque, la justice est devenue beaucoup plus méfiante. Désormais, la plupart des personnes soupçonnées dans des affaires de terrorisme sont incarcérées. Charlotte Piret.
Ils sont un tiers environ à encore bénéficier d'un placement sous contrôle judiciaire, 128 personnes soupçonnées dans des affaires de terrorisme, mais laissées libres soit sous bracelet électronique, comme c'était le cas d'Adèle Kermiche, soit avec une obligation de pointage régulier au commissariat. Mais ce que ces chiffres ne disent pas, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux à échapper à la détention provisoire, et l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray y est pour quelque chose. Depuis, le risque d'un passage à l'acte est évalué de manière beaucoup plus forte, tant côté parquet, qui transmet des réquisitions en faveur ou non de la détention provisoire, que chez les juges des libertés et de la détention. On compte ainsi actuellement 240 personnes mises en examen dans des affaires terroristes qui attendent leur éventuel procès en prison. Parmi eux, la quasi-totalité des dossiers récents, ceux qui sont laissés libres concernent souvent des affaires un peu plus anciennes, des personnes ayant voulu se rendre en Syrie avant 2015 par exemple. L'autre tendance, c'est l'implication des femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à être poursuivies, de plus en plus nombreuses aussi à être placées en détention provisoire.
Quant aux Français qui ont réussi, eux, à partir en Syrie, comment gérer leur retour? La question va se poser de façon assez pressante avec la défaite du groupe État islamique sur le terrain. De fait, la famille d'une jeune mère française de 27 ans, détenue depuis 15 jours dans une prison de Bagdad, demande son rapatriement. Elle avait quitté la France en 2015 pour rejoindre son mari, probablement mort en Syrie, et qui était condamné en France. Ses quatre enfants ont entre 5 mois et 6 ans, ils sont en Irak aussi. Et le rapatriement pose de grosses difficultés diplomatiques autant que juridiques. Écoutez l'avocat de la famille, Vincent Bringart, interrogé par Florence Turm.
Les textes sont parfaitement silencieux sur le procédé à employer lorsque vous avez des personnes qui expriment leur volonté de revenir sur le territoire national. Est-ce que on doit considérer finalement que quasiment les écarter des cités françaises alors même qu'ils en ont la nationalité? Nous pensons que non. Vous avez un certain nombre de dispositions, non seulement en droit national mais aussi en droit international, qui prévoient une protection quasi absolue pour les mineurs, mais aussi une protection pour les majeurs qui bénéficient, de la même manière que pour les enfants, d'une protection consulaire. Et on voit bien que dans ce dossier, évidemment, la question qui se pose, c'est aussi une question de souveraineté de l'État irakien, une question de souveraineté qui peut faire échec à une remise rapide de la mère. Mais en revanche, juridiquement, rien aujourd'hui ne justifie le maintien des enfants en zone irakienne. Aucun texte de droit ne permet de maintenir des enfants, surtout lorsqu'ils sont mineurs, comme c'est ici le cas, contre leur consentement et contre aussi le consentement des membres de leur famille.
L'avocat Vincent Bringart, c'est le plus gros contrat jamais signé par l'entreprise Dassault Systèmes, éditeur de logiciels, vient de signer un contrat $1 milliard avec Boeing, le tout afin de moderniser le système de production de l'avionneur américain. Une information donnée ce matin dans le journal détenu par Dassault, Le Figaro. Ce contrat engage Boeing pour 30 ans à travers donc un logiciel qui permet de regrouper sur une interface unique toutes les étapes de production. Un contrat décroché après 2 ans de compétition. Le temps de ce mardi, il s'annonce maussade presque partout, sauf sur la Méditerranée où le vent soufflera fort. Ailleurs, après une matinée très nuageuse, quelques éclaircies du Nord-Pas-de-Calais au sud-ouest. Ailleurs, grisaille persistante. À part en Corse, les températures sont fraîches, comptées ce matin entre 11 et 20 degrés du nord au sud, de 19 à 25 cet après-midi, 32 degrés sur la Côte d'Azur.
Merci Anne-Laure Orchouin, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Il est 8h15 sur France Culture.